Stephen King aime la peinture, Stephen King aime les vides-greniers, Stephen King a écrit Quand l'autovirus m'écaponore et Sergio Mimica Guezan l'a adapté. Bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, salut.
Salut.
Ça va ?
Bah écoute, ça va, comme à chaque enregistrement, tout va bien.
Ouais, temps pluvieux, mais bon.
Oui, mais bon, hein, c'est de saison après tout.
Oui, c'est pas faux.
Ce qui est pas de saison, c'est de passer de 22 degrés à moins 1.
Ouais, c'est vrai qu'on a des chutes un peu brutales en ce moment.
Voilà.
On parle météo maintenant, le podcast le plus intéressant du monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de « Quand l'autovirus m'écaponore », une nouvelle qui a été publiée dans le recueil « Tout est fatal », sorti en 2002, et de son adaptation dans la mini-série « Rêve et cauchemar », qui, contrairement à ce que son titre indique, n'adapte pas que des nouvelles de « Rêve et cauchemar », donc il y en a trois, je crois, de « Tout est fatal ». Et bah, comme d'habitude, nous allons spoiler la nouvelle et son adaptation, et je vous propose qu'on y aille tout de suite.
Allons-y.
C'est parti. Quand l'autovirus m'écaponore nous raconte l'histoire de Richard Crinol, un écrivain qui achète dans un vide-grenier une peinture un peu bizarre, un peu inquiétante, qui représente un jeune homme plutôt intimidant au volant d'une voiture. La peinture inquiète à peu près tout le monde, elle a été peinte par un jeune homme qui s'est ensuite suicidé et qui a détruit toutes ses toiles à part celle-ci. Mais pourtant, lui, il la prend sans trop savoir pourquoi, et il la ramène chez lui, mais il va se rendre compte petit à petit que le paysage en fond de la peinture change, et qu'en fait, il commence à reconnaître les lieux, et que ça semble indiquer que l'homme dans la voiture s'approche petit à petit de lui. La nouvelle lui a été inspirée par un tableau qu'il possède réellement, qui lui a été offert par sa femme, Tabitha King, qui visiblement inquiète absolument tout le monde aussi, dont surtout ses enfants, mais qu'il a accroché, enfin qu'il avait accroché du moins à l'époque, au-dessus de son bureau de travail. Et c'est pour ça en fait qu'il l'avait mis là-bas, c'est parce qu'il pouvait pas le mettre à la maison, ça inquiétait trop tout le monde. La nouvelle est publiée pour la première fois en 1999 dans un recueil de nouvelles intitulé 999, qui a été édité par Al Sarantonio, qui contient 29 nouvelles d'auteurs différents, surtout dans le genre du fantastique, toutes inédites, et qui a reçu donc le prix Bram Stoker du recueil de nouvelles pour cette année-là. Et plus tard, donc en 2002, elle est reprise dans Tout est fatal, qui est un recueil de nouvelles uniquement de King. C'est à peu près tout ce que j'ai à en dire sur le plan de la création. Comme d'hab avec les nouvelles, on n'a pas beaucoup d'informations. King fait une courte préface à la nouvelle, mais mis à part l'anecdote sur le fait qu'il possède réellement le tableau, il n'y a pas grand chose dedans. Et il fait aussi le parallèle avec d'autres fois où il a utilisé des tableaux vivants, l'exemple le plus frappant étant Rose Madder, qui a été publié en 95, donc. Mais c'est tout ce que j'ai à en dire, et je vous propose qu'on passe à nos avis.
Eh bien, c'était une chouette lecture. Pas inoubliable comme beaucoup de nouvelles finalement qu'on a abordées, enfin de nouvelles courtes en tout cas, parce que King aime bien faire la distinction entre les nouvelles longues que d'autres romanciers appelleraient des romans en fait, hein, parce que bon,
ouais.
Hein, les Langoliers, 372 pages, au bout d'un moment, c'est un roman, hein, c'est pas une nouvelle, mais bon.
Je crois que les Langoliers, c'est la plus longue de ces nouvelles courtes. Hein.
Chacun son dialecte. Pour moi, en fait, c'est dans la lignée, en un peu plus supérieure quand même, mais c'est dans la lignée d'un dentier claqueur. C'est-à-dire, c'est une lecture très agréable sur le moment, vraiment, on passe un bon moment, le récit se lit bien, mais on sait que d'ici quelques mois, on aura totalement oublié la nouvelle.
Ouais, je trouve quand même que le principe est au-dessus de celui du dentier claqueur, et peut-être que limite ça aurait pu être développé plus longtemps, ce mec qui est poursuivi par la créature du tableau, il y aurait eu de quoi en faire un peu plus, je pense.
Oui, alors qu'au final, c'est le dentier claqueur qui dure plus longtemps.
Je pense, j'ai pas fait le comparatif, mais il y a moyen, ouais.
Mais en fait, moi, Personnellement, le petit reproche que j'aurais surtout en fait à l'autovirus, c'est que le délire d'objets démoniaques comme ça et d'images qui rendraient fou, parce qu'au début on n'est pas sûr en fait, au début on pense juste que le personnage principal sombre un peu dans la folie, ça a déjà été vu et revu. C'est surtout que ça n'innove rien. Moi, c'est en fait mon principal reproche, c'est d'avoir l'impression d'avoir déjà lu ce que j'étais en train de lire.
Ah bah, c'est clairement un trope classique de l'horreur. Hein. Enfin, on retient surtout le portrait de Dorian Gray dans cette veine-là. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Même Poe, il a fait une histoire autour de ça, je crois. Mmh.
Mais du coup, moi, c'est ça que j'apprécie bien, en fait. C'est tout le moment où on a le doute. Parce que le personnage principal nous fait bien comprendre que peut-être que la première fois qu'il a vu le tableau, il a mal regardé. Peut-être qu'il n'avait pas vu que le personnage souriait autant. Peut-être qu'il n'avait pas vu que le bras a été déplié en dehors de la voiture et qu'on voyait le tatouage. Donc, il y a ce doute qui s'installe tout au long de la nouvelle, doute que moi j'apprécie bien.
Oui, qui est après un classique aussi du genre, mais qui est plutôt bien amené, effectivement.
Mais on en reviendra, qui est, je trouve, un petit peu désamorcé dans l'adaptation de la série Rêve et Cauchemar.
Une des grosses différences, on y reviendra dans l'adaptation, c'est que on est obligé de voir, nous, le tableau, donc c'est plus compliqué de faire planer le doute.
C'est ça.
Mais ouais, moi, c'est une nouvelle que j'aime bien, qui a un vraiment bon rythme, pour le coup. Elle va vite, parce qu'il se passe pas mal de trucs en une quarantaine de pages, quelque chose comme ça. Le temps qu'il fasse tout le chemin, qu'il se rende compte que le tableau a un problème, et puis tout le final où il essaie de trouver moyen, sans succès, spoiler, de lui échapper.
Oui, en foutant le feu dans la cheminée, juste avant même, en le balançant dans les temps.
Ouais, c'est vraiment une nouvelle qui se passe sur même pas une journée au final, sur une après-midi et une soirée.
Oui, ça c'est quelques heures.
Et au moins il y a vraiment aucun temps mort là.
Avec la réaction des personnages, parce qu'au fur et à mesure, ils croisent des personnages à qui ils montrent le tableau, ou des personnages qui voient ses agissements, quoi, ils essaient de s'en débarrasser.
Ouais. Et il y a la même réaction que les enfants de King, tout le monde déteste le tableau. Ouais.
Tout le monde le trouve horrible et inspire un manque de confiance surtout et une crainte.
Ouais.
Parce que vraiment, ça, c'est sa tante, il me semble, la personne qui va voir.
Oui,
vraiment,
c'est ça.
Elle n'est pas rassurée devant le tableau. Elle agit comme si il y avait une présence vraiment démoniaque dans le tableau.
Oui, et puis c'est en fait le tableau, d'une certaine façon, on peut se dire qu'il a ensorcelé le protagoniste. C'est plus ou moins ça. C'est pour ça qu'il l'a pris, parce que lui-même n'a pas l'air d'être très au courant. Il le fait dans un vide-grenier un peu sordide.
Oui, et puis on se doute que c'est l'esprit un peu dérangé du peintre qui, lui, s'est suicidé quelques temps après avoir peint le tableau.
On peut se demander, moi je l'ai interprété autrement, étant donné qu'on nous dit que le peintre a détruit toutes ses toiles sauf celle-ci. Moi je l'ai interprété comme le peintre qui a créé ça, qui en a déjà été victime et qui a essayé aussi de le détruire en même temps que toutes ses autres toiles, sauf qu'elle n'a pas brûlé,
vu
qu'on a bien vu que le tableau brûle pas.
Oui, d'accord. Mais ce petit point m'avait échappé, tu vois.
Enfin, après c'est une histoire d'interprétation, mais pour moi le peintre en a déjà été victime du tableau.
Et du coup il voulait tout cramer, être sûr, sauf que... Voilà.
Non. Voilà.
Et donc il ne s'est pas suicidé, il a été tué.
Ou alors il s'est suicidé pour éviter d'être tué, mais ça revient à peu près au même quand même.
Est-ce qu'il laisse un mot, agrafé à sa chemise après la pendaison, comme quoi il en a marre de vivre ce qui lui arrive.
C'est ça, du coup ça laisse supposer, enfin ça peut être un truc de c'est interprété comme un signe de dépression, ce qui peut être le cas, mais ça peut être aussi qu'il en a marre d'être poursuivi par l'autovirus.
Et ça se comprend.
Oui, c'est vrai que ça doit pas être très agréable.
Ah, ça va être très très cool en fait.
Même si en soi il suffit d'aller dans un coin où il n'y a pas de route.
Il n'y a pas de route, c'est pas grave. Et tu roules quand même.
Ça dépend, si tu vas vivre dans les bois, la voiture elle passe pas entre les arbres.
Ah, il faut vraiment trouver un endroit où les arbres, sont vraiment très rapprochés.
Oui, c'est ça.
Faut pas vivre en clairière quoi.
Comme dans Into the Wild.
Voilà. Ou alors faut vivre sur une toute petite île déserte.
Ouais, pareil, elle est pas amphibie, la voiture.
Ah, tu ne sais pas.
Ah, c'est une décapotable, déjà. C'est pas amphibie, l'ensemble, les décapotables.
Peut-être que si tu vas sur une île, le tableau change et que ce n'est plus une voiture, mais un bateau.
Peut-être qu'il fait une croisière aussi.
Ah, et donc là, l'autovirus met Cap au Nord 2. La suite.
On peut se demander aussi ce qui se passe si tu vas vers le sud. Est-ce que l'autovirus est capable de mettre le cap autre part?
Ah, c'est pas con, ça.
Sinon, il y a peut-être plein de moyens d'y échapper, en réalité. Hein.
C'est ça.
On écrira un courrier de fan à King pour lui demander des précisions.
Et est-ce que, comme dans The Mangler 2, l'autovirus peut changer un petit peu de...
Ouais, il peut devenir un virus informatique, lui aussi.
Voilà, lui aussi. Est-ce que ça se voit qu'on comble?
Ouais, non, mais je pense que sur la nouvelle, c'est tout ce qu'on a à dire. Bah, on va tout de suite passer à l'adaptation et ça va être assez rapide aussi.
Ah oui.
C'est parti. L'adaptation donc fait partie de la mini-série Rêve et Cauchemar dont on a déjà parlé à l'occasion de notre épisode sur la dernière affaire d'Omné, donc pour les informations générales sur cette mini-série, je vous laisse vous reporter à cet épisode. C'est cependant une nouvelle qui avait déjà été adaptée dans un Dollar Baby réalisé par Dave Brock qui est sorti en 2004. On retrouve, nous, dans notre adaptation, une équipe de production un peu près similaire à celle du précédent épisode, hein. En même temps c'est la même équipe à la prod sur toute la série. Et il y a aussi le même compositeur pour la musique, qui s'appelle Jeff Beal. Je trouve sa musique un peu moins mémorable que ce qu'il avait fait sur Omné, où il avait amené un petit côté un peu film noir, jazzy, assez sympa.
C'est très classique.
Là c'est plus classique, après ça fait le taf. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher. Le réalisateur choisi, c'est Sergio Mimica Gezan, qui est un réalisateur américain né en Croatie, et qui a principalement travaillé à la télévision sur des séries comme Heroes ou Les Chroniques de Sarah Connor, ou Battlestar Galactica. Mais il a aussi travaillé, on n'a pas prévu de le traiter pour le moment parce que c'est 3 saisons, mais sur Under the Dome. Enfin, je crois qu'il a fait qu'un épisode, mais il a travaillé dessus en tout cas.
Ouais, on y viendra bien un jour ou l'autre.
Ouais, voilà. Et c'est le seul réalisateur, pour le coup, il a fait toute la mini-série sur Les Piliers de la Terre, l'adaptation du livre. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là.
De Follett.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas vu.
J'ai même pas lu de livre, j'en ai lu d'autres de la série des cathédrales de Ken Follett, mais pas celui-là.
Ouais, après, ce que j'allais dire, c'est que Ken Follett, c'est pas vraiment mon style de lecture prédominante. C'est quand même le récit un petit peu historique, un petit peu épique, un petit peu très romancé aussi. C'est pas forcément ma tasse de thé, même si apparemment il le fait très bien. Moi je n'ai jamais lu Ken Follett.
Bon, moi ce que j'en ai eu, j'ai bien aimé, mais pareil, c'est pas mon genre de prédilection.
Oui, mais voilà, après, apparemment il le fait très bien. Soit. Mais je sais que Les Piliers de la Terre ont aussi été adaptés en point and click.
D'accord.
Alors, pour le coup, étant un grand amoureux du genre point and click, peut-être qu'un jour je découvrirai Ken Follett via l'adaptation en jeu vidéo.
Bon, et puis pour le coup, a priori, c'est quand même une histoire qui peut bien se prêter au genre.
Oui, bah,
il y a toute l'histoire mystère autour d'une cathédrale.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a de quoi faire des énigmes retors et intéressantes.
Mmh. Ouais, c'est un bon genre, le point and click. Et il a été aussi, pas Ken Follett, hein, Mimica Gezan, premier assistant réalisateur sur pas mal de films de Spielberg dans les années 90 et au début des années 2000.
D'accord.
Le scénariste de l'épisode, c'est Peter Filardi, dont on a déjà parlé parce qu'il avait déjà scénarisé la mini-série Salem de 2004. En dehors de ça, comme on l'avait déjà précisé à l'époque, il a rien fait de bien notable. Et bah, encore une fois, on retrouve plusieurs noms communs entre Salem et Rêve et Cauchemar, étant donné que c'est la même société de production, donc ils ont repris des gens en commun, forcément. Au casting, on a en acteur principal Tom Berenger, qui est un acteur assez actif, mais surtout dans des seconds rôles au cinéma et à la télévision. Après, il a joué dans des trucs quand même prestigieux, vu qu'il a joué dans Platoon, ce qui lui a valu plusieurs nominations. C'est quasiment son seul rôle qui lui a valu des nominations, d'ailleurs. Il a joué dans Training Day, par exemple, qui est un bon film.
Ouais.
Je crois qu'on en avait déjà parlé, on a déjà eu des acteurs de Training Day.
Oui, on en a déjà parlé dans ce podcast, il me semble.
Et dans les séries 13 et Major Crimes, où il a un rôle assez important apparemment, mais je n'ai vu aucune des deux.
Bah moi non plus, mais 13 a pas bonne réputation, il me semble.
Non, pas 13. Après, la BD m'a jamais tellement intéressé non plus. Je sais que c'est un classique, hein, mais ça m'a jamais tellement plu. Moi.
À 13, j'ai lu que les deux premiers tomes, j'ai pas lu la suite, plus par manque de temps que par manque d'envie.
Je suis pas allé très loin non plus. Hein.
Alors le jeu vidéo qui a été fait à l'époque était très très cool. Sur GameCube et PS2, tout en cel-shading, c'était très, très sympa.
D'accord.
Donc, c'est un podcast très jeu vidéo, décidément.
Oui, et puis c'est un podcast où on parle de beaucoup de choses qui ne sont pas comme l'autovirus mais caponard.
Oui, mais bon, on veut pas que l'épisode dure que 10 minutes.
C'est clairement lui l'acteur le plus important du casting, puisque les autres n'apparaissent que le temps d'une scène ensemble, donc on va juste citer les noms. Marsha Mason dans le rôle de Tante Trudy, Susie Porter dans celui de Sally, l'ancienne épouse du personnage principal, et Hamish Michael dans celui de l'Autovirus, qui n'apparaît physiquement que très peu, mais j'imagine que le tableau a été un peu basé sur lui.
Oui, je pense.
Alors là, je suis un peu déçu parce que j'ai pas réussi à obtenir l'information. J'aurais bien aimé savoir si le tableau qu'on voit dans l'épisode est une reprise de celui qu'a King.
Ça aurait été intéressant de le savoir, ouais.
Mais j'ai cherché, j'ai vraiment pas réussi à trouver cette information.
Ouais, et puis pour le coup, j'ai regardé ça ce matin, les bonus du DVD sont assez faméliques. Hein.
Ouais, après, ça reste une mini-série, je veux bien comprendre qu'ils aient pas fait plus de bonus que ça, mais ils sont très courts, ouais.
Et pour le coup, c'est même plus des featurettes que des vrais bonus. Quoi.
C'est ça.
C'est des featurettes promotionnelles.
Le directeur photo, c'est Ben Nutt. Il avait lui aussi déjà travaillé sur Salem, mais j'avais oublié de le citer à l'époque. Et c'est un directeur photo qui a travaillé sur quelques films intéressants. Même si son travail n'est pas forcément ce qu'il y a le plus remarquable à chaque fois, il a travaillé sur Prédestination, le film avec Ethan Hawke. Je sais pas si tu as vu celui-là.
Ouais, très bon film.
Ouais.
C'est vraiment un film que j'aime beaucoup.
Et oui, moi pareil, je le trouve vraiment très sympa. Et il a travaillé aussi sur Chinese Zodiac.
Et pour le coup, juste Prédestination, c'est un film que tu trouves en watt millions d'exemplaires dans tous les cash converters, ça 1€.
C'est ça, donc si vous le tombez dessus vraiment, et que vous ne l'avez pas vu, prenez-le, il vaut vraiment le détour.
Vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas le voir.
Mm-hmm. Et donc Chinese Zodiac, c'est un film réalisé par Jackie Chan. C'est la suite de Opération Condor.
D'accord, oui.
C'est une sorte d'Indiana Jones à nouveau.
Ouais.
Et qui est pas très apprécié, alors que moi je trouve que le scénario est pas top, mais il y a des très très bonnes scènes de combat dans Chinese Zodiac. Je sais pas si tu as vu celui-là.
Non, j'ai pas vu celui-là.
Il y a notamment une scène de combat où ils doivent, où lui et son adversaire se lancent le défi de ne jamais lâcher en fait un canapé. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours toucher un canapé, sinon ils ont perdu. Et donc il y a tout un combat super bien chorégraphié autour de ça.
D'accord. Original.
Ouais. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de cet épisode, parce que on trouve pas énormément d'informations. De manière rigolote, comme dans la dernière affaire d'Omné, on remarque une inspiration dans le look du personnage, qui a un petit côté Stephen King.
Oui.
En même temps, là aussi, dans le texte, les parallèles sont déjà assez évidents, vu que c'est un écrivain d'horreur, le héros de la nouvelle.
Qui vit dans le Maine.
Qui vit dans le Maine.
Donc, faire plus.
Voilà, c'est ça, c'était évident de faire le lien. Mais je trouve rigolo de voir qu'on a deux épisodes où le look du personnage a été basé sur l'auteur.
C'est ça.
Je me suis arrêté dans un vide-grenier.
Oh, est-ce que tu as déniché un trésor ?
Comme toujours.
Alors voyons ça.
D'accord, d'accord. Tu vas en perdre ta petite culotte.
Quelle charmante pensée.
Alors ?
Oh, Richard, c'est horrible, je déteste. Oh,
arrête, c'est pas si mal.
Oh.
Quand l'autovirus met cap au nord. Plutôt approprié, non ?
Comment peut-on peindre une horreur pareille ? Je suis étonnée que tu ne sois pas davantage sensible à ce qui s'en dégage. Toi, le maître de l'horreur, tu as toujours été si imaginatif.
Je n'avais pas remarqué le tatouage.
Ce sont des dents.
Ah oui, ça je les avais vus, mais il a l'air différent en pleine lumière. Un peu plus sombre que dans mon souvenir. Enfin bon.
Et on va pouvoir passer à nos avis, comme d'habitude, à toi l'honneur.
Et du coup, j'ai clairement préféré la nouvelle que son adaptation. La faute en fait à des effets de style un petit peu trop présent et surtout pas très bien maîtrisé, j'ai trouvé. Et puis c'est surtout ultra classique dans sa réalisation. Alors, l'épisode est bien rythmé, mais après c'est un peu le format télé qui veut ça, un rythme constant pour maintenir le spectateur éveillé et pour pas qu'il change de chaîne dès que la pub arrive.
Oui, après c'est le format qui veut ça, mais c'est pas toujours réussi pour autant.
C'est pas toujours réussi, c'est vrai. Mais par exemple, c'était bien mieux maîtrisé dans Domné, par exemple.
Oui.
Quitte à faire un comparo avec un autre épisode de cette série. En fait, ce que j'ai peur, du coup, c'est que on soit tombé directement sur le meilleur épisode de la série.
D'après ce que j'en sais, c'est pas le cas.
D'accord.
Le plus apprécié, c'est Petit Soldat dans l'ensemble.
D'accord. Mais... En tout cas, Domné est peut-être le plus original. Parce que bah, y a ce monde parallèle, cette ambiance film noir qu'on va pas retrouver dans les autres. Quoi.
Non, après, il faut voir s'il y en a d'autres qui amènent quelque chose. Parce que là, je trouve qu'on sent qu'ils tentent des trucs.
Ouais.
Même niveau réalisation, des fois, ça tente un peu la caméra à l'épaule. Enfin, ça tente d'être un peu moins propre que ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Mais ouais, c'est pas méga bien maîtrisé.
Non. Mais moi, vraiment, c'est tous ces effets de style, tous ces ralentis un petit peu saccadés, avec des flashs lumineux quand ils arrivent. C'est des effets que j'ai toujours trouvé dégueulasses, tout simplement.
Ouais.
Ça m'a jamais intéressé, ce genre d'effet. J'ai toujours trouvé ça un petit peu cache-misère. Plus que impressionnant, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, il y a une période dans les années 2000 où j'ai l'impression que l'horreur retombait pas mal sur ses effets, comptait pas mal là-dessus. Même un film qui est bien, hein, un film comme Saw, ça, il y a énormément d'effets de réal de ce genre-là quand même.
Ouais, il y en a.
Donc, ouais, c'est vrai que ça gâche un peu tout. Et au final, la peinture en elle-même n'est pas tellement utilisée, je trouve.
Et puis, elle n'est pas si effrayante que ça, en fait.
Non.
Vraiment, moi, de ce que je m'en imaginais dans... En fait, la peinture est réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Le trait est un petit peu réaliste. Elle n'est pas ultra... comment dire? Elle n'est pas ultra pop, comics, un petit peu cartoon. Moi,
ouais.
J'avais vraiment... Moi, je m'imaginais, en fait, un truc un petit peu cartoon. Mais cartoon un petit peu trashouille. Qui, du coup, crée un mélange un petit peu dérangeant.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Alors que là, pas du tout. Et bon, après, c'est... Après, le souci vient de moi, du coup, parce que c'est comme ça que moi je l'ai interprété dans la nouvelle, parce qu'elle n'est pas plus décrite que ça. Donc le problème vient plus de moi que de l'épisode, hein, là, pour le coup.
Non, mais après, je suis d'accord sur le fait qu'elle n'est pas particulièrement inquiétante. Peut-être qu'elle essaie trop de faire inquiétant, justement, et que du coup, elle l'est plus assez.
Il y a peut-être ça aussi. Et donc, du coup, pour en revenir à moi, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle, c'est le fait qu'on ait un doute. Là, en fait, on nous montre le tableau, certes, mais en fait, on nous montre le tableau au moment où il s'anime. Et rien que ça, en fait, je trouve que du coup, ça désamorce le côté énigmatique, on sait pas si le personnage est fou ou pas. Parce
ouais.
que nous-mêmes, spectateurs, on voit que le tableau s'anime. Donc on sait directement que le tableau est maléfique. Il n'y a pas de doute, en fait, possible.
C'est ça. Bah après, en fait, le doute, on aurait pu difficilement l'avoir à partir du moment où on est bien obligé de nous montrer le tableau à l'écran, et où on voit que ça a bougé, de toute façon, d'un plan à l'autre.
Ouais, mais tu vois que ça a bougé, mais tu le vois pas dans l'immédiat.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, par exemple... C'est exactement le même principe que Profondo Rosso, donc Dario Argento, le passage où... Les frissons de l'angoisse, du coup. Le passage au début du film où on voit l'assassin.
Oui.
Dans le reflet du tableau. Tu le vois quelques secondes, ton œil voit qu'il y a un truc bizarre, mais t'es pas en mesure de faire un arrêt sur image. Enfin, au moment où le film est sorti au cinéma, t'es pas en mesure de le faire.
Oui, et puis si t'es bien entré dans le film, de toute façon, tu le fais pas.
Tu le fais pas.
Voilà.
Donc... Ton œil sait qu'il a vu un truc, mais tu sais pas quoi. Du coup, ça crée un mystère. Et en fait, ça aurait pu très bien être fait pour le tableau. Tu vois,
ouais.
juste le montrer rapidement au début, un petit peu dans l'obscurité, comme le personnage le voit en fait au tout début. Parce que lui-même dit que il était dans l'obscurité, j'ai peut-être mal vu. Et du coup, créer ce doute-là aussi chez le spectateur. Alors que là, pas du tout, vu qu'on nous le montre vraiment s'animer. Directement, on voit le tableau qui se met à sourire un peu plus qu'il ne souriait au début.
Ouais, effectivement, c'est un peu trop explicite au final. Et puis... Ouais, ça, en fait, ça nous filme un tableau, mais j'ai jamais l'impression que ça essaie d'inclure le tableau dans la réalisation, on va dire, vraiment dans l'esthétique du film.
Normalement, tu filmes comme un tableau.
Ouais, c'est... Alors, je demandais pas à ce que ça fasse une Roger Rabbit, parce que c'est probablement coûteux, et ça aurait peut-être eu l'air un peu ridicule avec des effets spéciaux de l'époque. Mais il aurait fallu trouver quelque chose pour un peu plus donner l'impression que le tableau entrait dans le monde réel. Ça filme juste un tableau de manière très plan-plan et ça aide pas à créer une angoisse non plus.
C'est ça, en fait, le souci, c'est que ça filme le tableau comme un élément de décor plus que comme un personnage.
Ouais.
C'est aussi ça le truc. Et tu vois, et pareil. Alors, je sais pas pourquoi, ils ont fait un délire autour de... Il y a plein de chiens dans l'adaptation. Des chiens qui pètent un câble dès qu'ils voient le tableau, alors qu'il n'y a pas du tout dans la nouvelle.
Ouais.
La nouvelle, le seul chien qu'on voit, c'est le chien de la promeneuse. C'est tout. Et à chaque fois que t'as des chiens, ils se mettent à gueuler sur le tableau. Et rien que ça aussi, ça te conforte dans l'idée que oui, le tableau est maléfique.
C'est un autre code du genre ultra récurrent, ça, les chiens qui gueulent sur le...
Ah oui.
Pour les trucs maléfiques.
Et puis du coup, ça crée une petite incohérence aussi, parce qu'après, tous les chiens gueulent dessus, sauf son chien, lui. Qui, une fois, il monte dans la bagnole normal alors que le tableau, lui, s'en bat les couilles.
Il hésite à monter quand même.
Ouais, mais il a pas de réaction plus virulente que ça. Tu
ouais.
Vois. Et même une fois après, une fois dans la maison, il a pas de réaction virulente.
Ouais, effectivement. Ouais.
Donc tu dis bah pourquoi tous les autres chiens et pas lui? C'est bizarre.
Mais il y a peut-être un chien un peu con.
Peut-être. J'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Mais voilà, après, sinon, mis à part ça, les acteurs sont plutôt bons.
Oui, bah, surtout Tom Béranger, les autres, on les voit pas...
On les voit pas tant que ça, mais,
tant que ça,
mais
ouais.
Le peu qu'on les voit, ils sont pas mauvais, quoi.
Ouais, voilà. C'est le côté étape du voyage, avec bah, notamment la scène où il récupère le chien, c'est vrai que ça rallonge peut-être un peu inutilement, on sent que c'est fait pour atteindre les 40 minutes et quelques.
Il faut faire durer l'épisode 42 minutes, quoi.
Ouais, c'est dommage, pour ceux, ça aurait peut-être gagné à ce que ce soit le final qui soit un peu plus rallongé avec lui tout seul.
Et parce qu'au final, ça, c'est assez expédié. Hein.
Ouais. C'est... Le dernier plan est joli, pourtant, c'est dommage. En fait, c'est là que je me dis que le réalisateur aurait pu faire quelque chose s'il avait mieux maîtrisé ses idées, parce que le dernier plan est joli, et ouais, on sent des envies, quand même, de faire quelque chose.
Tout à fait.
Mais bon, voilà, je pense pas que c'est une... Je pense pas qu'on a trop s'attarder dessus non plus.
Non, on peut s'attarder, et j'en ai pas fait mention sur comment on abordait la nouvelle, mais au début, il se rend à une convention d'auteur qui s'appelle Le Pen.
J'avais pas fait gaffe.
Quand tu viens en France, tu dis, bon, il aurait peut-être été bien de changer un peu l'acronyme.
Ouais, ouais, c'est des choses qui arrivent.
Au bout d'un moment, tu t'attends à voir un gros monsieur avec un œil de verre surgir, et là, t'es tout dans le même univers, quoi.
Les tableaux qui nous poursuivent, qui viennent jusqu'à chez nous, qui voilà. Viennent envahir nos maisons, n'est-ce voilà. Pas.
Ah, bah du coup, on a une thématique.
Ouais, il y a une thématique, hein, c'est peut-être ça, l'histoire.
Ah, c'est ça. Voilà, moi, ça m'a... sur un moment, ça m'a perturbé, je fais... Ah.
Par des romanichels.
En plus, avec tous ces... Tous ces fans complètement fous là, l'autre il se fait un tatouage de lui dans le dos là.
Ça, je me dis que King l'a probablement vécu les trucs comme ça. Il en a forcément des fans comme ça.
Même pas que King, hein. Je pense que tous les auteurs à succès,
ouais.
Ils en ont des barjots.
Ouais, mais peut-être encore plus quand t'écris dans le genre horrifique.
Ouais.
Peut-être. Je pense que les gens ont tendance. Enfin, surtout King, vu qu'il a un humour particulier et qu'il a une tête un peu spéciale, je pense que les gens sont persuadés que c'est un espèce de psychopathe dans la vraie vie. Je pense qu'il y a des gens qui en sont sûrs.
C'est vrai que King, il a une tête... tu le croises dans la rue, tu sais pas que c'est lui, tu changes le trottoir.
Ouais, c'est ça.
Il a pas une tête...
Alors qu'il
rassurant.
A l'air super sympa en vrai, mais bon.
Ouais. Ouais, mais voilà, il a pas une tête très rassurante, il faut dire ce qu'il est quand même. Personnage qui d'ailleurs, quand il essaye de fuir l'autovirus... trébuche sur des bouquins de King.
Oui, je me rappelle plus lequel c'est, mais oui.
Alors, ces deux romans, ils trébuchent sur Cimetière, et l'autre, j'arrive pas à lire. C'est une couverture sombre, et le titre est un petit peu argenté, et c'est assez compliqué à lire, mais il tombe sur Cimetière, en tout cas.
D'accord.
Du coup, ça m'a... J'ai fait, tiens, c'est rigolo. Un petit clin d'œil fort amusant.
Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à une petite scène ?
On peut passer à une petite scène, allez.
Allons-y.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon.
Très bien, nous allons donc parler d'un extrait du début de la nouvelle, quand Richard Crinol voit pour la première fois le tableau. Dans la nouvelle, je lis l'édition Poche, le livre de poche de Tout est fatal, traduite par William Olivier Desmond, et nous sommes à la page 440. Pas le moindre livre de poche à l'horizon, mais il vit en revanche le tableau appuyé contre une planche à repasser et maintenu en place par deux paniers à linge, et il oublia de respirer. Il le voulut sur le champ. Il s'avança avec une nonchalance feinte et mit un genou en terre devant. C'était une aquarelle, fort bien réussie d'un point de vue technique, mais Kinel s'en moquait. La technique ne l'intéressait pas, à un fait que ses critiques n'avaient pas manqué de relever. Ce qu'il aimait dans les œuvres d'art était leur contenu, et plus celui-ci était dérangeant, plus il aimait ça. À ce titre, l'aquarelle faisait très fort. Il mit le deuxième genou au sol, entre les deux paniers à linge remplis de divers petits appareils ménagers, et laissa ses doigts effleurer la vitre qui protégeait le tableau. Il jeta quelques rapides coups d'œil autour de lui, à la recherche d'œuvres semblables, mais il n'en vit aucune. Rien que les chromos habituels dans les ventes de garage, bébé joufflu, vierge en prière, toutou gambadant. Il revint à l'aquarelle, encadré, et se vit déjà retirant sa valise du coffre pour la mettre sur le siège arrière de l'Audi, afin de faire de la place pour le tableau. On voyait sur celui-ci un jeune homme au volant d'une voiture de sport. Une grande dame, peut-être, ou une GTX, un véhicule décapotable en tout cas, qui franchissait le pont Tobin au coucher du soleil. La capote était abaissée, donnant plus ou moins un aspect d'engin de course à la voiture noire. Le jeune homme appuyait son coude gauche sur le montant de la portière et tenait le volant avec désinvolture de la main droite. Derrière lui, le ciel se confondait en une masse de couleurs, des jaunes et des gris comme des ecchymoses, striés de rose. Le conducteur avait des cheveux blonds et raides qui lui retombaient sur le front. Il souriait, mais ses lèvres écartées s'ouvraient non point sur des dents, mais sur de véritables crocs. « Ou alors elles ont été taillées en pointe, » songea Kinel. « Il s'agit peut-être d'un cannibale. » Cela lui plut. Il aimait cette idée d'un cannibale franchissant le pont Tobin au coucher du soleil au volant d'une grande dame. Il n'ignorait pas que la plupart des gens, à la table ronde du Pen, en auraient pensé « Oh oui, superbe tableau pour Richard Kinel. Il en a probablement besoin pour trouver l'inspiration. C'est une plume pour chatouiller son vieux gosier fatigué et provoquer une nouvelle projection vomitale. » Mais la plupart de ces types étaient des ignorants, du moins en ce qui concernait son œuvre, et qui plus est, des ignorants qui chérissaient leur ignorance, la chouchoutant comme certaines personnes inexplicablement chérissent et chouchoutent ces avortons de clébards qui jappent hystériquement dès qu'arrive un visiteur et mordent même parfois la cheville du facteur. La peinture ne l'avait pas attiré parce qu'il écrivait des histoires d'horreur. Il écrivait des histoires d'horreur parce qu'il était attiré par des choses comme cette peinture. Ses fans lui envoyaient toutes sortes de trucs, surtout des tableaux, dont il jetait la plupart, non pas parce qu'ils étaient mauvais artistiquement, mais parce qu'ils étaient prévisibles et barbants. Il avait cependant conservé une petite céramique représentant un singe horrifié et hurlant dont la tête dépassait d'une porte de réfrigérateur et que lui avait envoyé un type d'Oma. La sculpture était assez mal exécutée, mais cette juxtaposition inattendue avait déclenché son système d'alerte. L'aquarelle présentait un peu les mêmes qualités, mais en mieux. En beaucoup mieux même. À l'instant où il tendait la main, dans cette seconde même, envahi par le désir de s'en emparer tout de suite, le désir de la mettre sous son bras et de proclamer ses intentions, une voix s'éleva dans son dos. « Vous n'êtes pas Richard Kinel ?» Il sursauta et se tourna. La grosse femme se tenait directement derrière lui, masquant l'essentiel du paysage immédiat. Elle avait remis du rouge à lèvres avant d'approcher, et sa bouche était transformée en un sourire saignant. « En effet, » répondit-il, lui aussi avec un sourire. Les yeux de la femme se portèrent sur l'aquarelle. « J'aurais dû me douter que vous iriez directement vers ça, » observa-t-elle en minaudant. « C'est tellement vous !»« Ah, vous trouvez ?» Il lui adressa alors son sourire, modèle célébrité démasqué. « Et combien en voulez-vous »« 45 $. »« Je vais pas vous raconter l'histoire, j'avais commencé par le mettre à 70, mais il ne plaît à personne et j'ai baissé le prix. Si vous revenez demain, vous pourrez probablement l'avoir à 30 $. » Ses minauderies atteignaient des proportions effrayantes. Il voyait des petites bulles de salive crever aux commissures de ses lèvres étirées. « Je crois que je ne vais pas courir ce risque, » dit-il. « Je vais vous faire un chèque tout de suite. » Le sourire mignard ne fit que s'étirer un peu plus. Elle commençait à ressembler à une caricature peu flatteuse d'elle-même. Garbo jouant les Shirley Temple enfant. « En principe, je ne dois pas prendre de chèque, mais ça ira. » Elle avait parlé du ton dont une adolescente accepte enfin de faire l'amour avec son petit copain. « Mais puisque vous allez devoir sortir votre stylo, vous pourriez peut-être me laisser un autographe pour ma fille. Elle s'appelle Michela. »« C'est un prénom ravissant, » répondit-il automatiquement. Il prit le tableau et suivit la grosse femme jusqu'à la table pliante. Sur l'écran de télé, les deux jeunes gens sexuellement excités avaient laissé la place à une femme âgée engloutissant des céréales. « Michela lit tout ce que vous écrivez. Où diable allez-vous pêcher toutes ces idées ?»« Je ne sais pas, » répondit Kinel, le sourire plus large que jamais. « Elles me viennent comme ça. » Stupéfiant, non?
Eh ben, en espérant qu'elles viennent pas comme ça non plus chez King.
Bah, je pense qu'elles lui viennent... je sais pas comment lui viennent ces idées. Je crois que la question le gonfle, donc il répond pas. Et nous allons passer à la même scène dans l'épisode.
T'as l'air bien content de toi. Qu'est-ce que tu sais que j'ignore ?
Vous ne seriez pas Richard Kinel ?
Oui, c'est moi.
C'était sûr que vous alliez foncer droit dessus, c'est tellement votre genre.
Oui, c'est clair.
Je m'appelle Judy Dimen, j'habite dans la rue.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce tableau ?
C'est un original peint par Bobby Hastings. Et c'est à cause de lui que je vends toutes les affaires des Hastings. Ici, c'était leur maison. Ils ont même laissé un chien.
Le modèle, on dirait un rocker cannibale.
C'était le look de Bobby. Il portait le même t-shirt jour et nuit. Il avait une photo de Led Zeppelin dessus. À la fin, Bobby n'avait plus que la peau sur les os et sale comme un peigne.
Et à la fin de quoi?
Il s'est suicidé. Bobby n'avait que 23 ans. Un garçon du genre génie torturé, vous voyez, mais qui vivait toujours chez ses parents. Il se droguait.
Voilà, très bien. Donc, Chris, que penses-tu de ces deux versions de la même scène?
Bah, au final, elles sont assez proches l'une de l'autre. Jusque-là, la version romancée, en fait, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est beaucoup plus mystérieuse quant au descriptif et à la manière d'amener le tableau. Et au tout ce qui entoure le tableau aussi. Même si, là, en l'occurrence, on apprend ce qui entoure le tableau après.
Ouais.
C'est après le moment où tu t'es arrêté qu'on apprend la vie du gamin qui l'a peint. Mais voilà, c'est amené de manière un peu plus énigmatique et fantastique dans le récit que dans son adaptation à l'écran.
Ben, on a surtout le ressenti du personnage. Alors, on a pas mal d'éléments sur ce à quoi ressemble le tableau en lui-même. Mais c'est vrai qu'on peut quand même tous largement s'en faire une représentation, c'est pas trop précis.
Et on voit que le personnage semble vraiment attiré de manière limite viscérale.
Ouais, c'est ça, c'est dès qu'il l'aperçoit, comme si le tableau l'appelait, ouais.
C'est ça. Et il le dit, qu'il est attiré par des choses un petit peu glauques dans ce genre-là. Ça aide, en fait, à s'imaginer le tableau comme quelque chose de vraiment repoussant, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été un petit peu froid quant au visuel choisi pour le tableau dans l'adaptation.
Il n'est pas beau, mais il est très bien fait techniquement, on va dire.
Voilà. Ouais, et puis même, il n'est pas beau, j'aimerais bien savoir peindre comme ça, c'est pas non plus donné à tout le monde.
Oui, voilà, non, je veux dire, esthétiquement, il n'est pas génial.
Voilà,
c'est...
Oui.
Mais oui, techniquement, il n'y a aucun souci.
Il me paraît grand aussi, alors ça, c'est peut-être moi ce que je me suis imaginé plus petit dans le récit, mais il me paraît grand, ouais, dans le...
Bon, a priori, il doit être grand aussi quand même dans le récit, vu qu'il doit dégager de la place dans le coffre pour le mettre, et que j'imagine qu'il a pas une toute petite bagnole. Mais ouais, voilà, en fait, le roman, enfin la nouvelle parvient à garder un mystère que le téléfilm fait moins bien. Après, je sais pas trop comment il aurait pu faire en réalité pour à la fois montrer le tableau sans trop nous en dire dessus, parce que ça aurait vite fait artifice s'il avait montré le tableau trop rapidement, peut-être.
Mais voilà, c'est ça. Qu'il avait montré de manière trop rapide ou brièvement.
La différence avec Argento qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que il y a l'urgence qui fait que ça passe très rapidement, le plan où tu vois quelque chose, parce qu'il doit aller à l'autre bout de l'appart où quelqu'un vient de se faire tuer.
Oui, et puis surtout, le personnage principal, lui, ne le voit pas.
Oui, c'est ça.
Toi, spectateur, tu vois.
Et encore, même nous, on peut se dire qu'on a fait une erreur à ce moment-là.
Oui, parce que c'est un couloir où t'as plein de tableaux, donc tu peux juste penser que c'est un tableau, en fait.
Mais tandis que là, il a le temps de voir le tableau et on aurait eu un peu l'impression d'un artifice de mise en scène si ça nous le montrait pas.
Oui.
Donc je sais pas ce qu'il aurait fallu faire.
Peut-être déjà virer le chien.
Ouais.
Le chien qui réagit, encore une fois, au putain de tableau. Et qui n'est pas présent en plus dans le... Je crois pas qu'il y ait de chien à nouvelle à ce moment-là.
Non, pas à ce moment-là, non.
C'est... À chaque fois, je sais pas pourquoi ils veulent rajouter des chiens. C'est incroyable ça. Pour une fois que c'est moi qui me plains de la présence de chiens, ils savent.
Ah oui, non, mais je vais pas protester contre ça. Hein. Il y a trop de chiens.
Oui, bah oui, t'as bien aimé à la fin. Hein.
Ouais. Ah, le meilleur moment.
Toujours. C'est pour ça que tu n'aimes pas les films catastrophes, car à chaque fois, les gens sauvent les chiens.
Oui, c'est ça, et à chaque fois, on se préoccupe plus du chien que des humains. Hein. C'est n'importe quoi. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Non, mais voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. C'est peut-être trop explicite en fait, mais c'est peut-être aussi lié au format qui oblige à rajouter du contenu pour atteindre la bonne durée. En vérité, ça aurait peut-être mieux marché sur quelque chose de plus court pour le coup. Je sais pas.
Venons-en au classement.
Ouais, allez, c'est parti pour le classement.
Comme ça, au moins, on sera fixé. Alors du coup, le classement, comme d'hab, nous commençons par le classement des écrits. Pif, paf, pouf, je le sors. Le classement, hein, pas autre chose.
Oh, tu fais ce que tu veux, hein. Tu es ici chez toi.
Ça, c'est pas le genre de choses qu'il va me dire deux fois, Issam. Parce que sinon, tu vas retrouver ton appart sans dessus-dessous. Alors, pour le classement des livres, nous avons 23 titres. En tête de classement, nous avons Cimetière, La Part des Ténèbres et Dead Zone. Et en trio de fin de classement, nous avons L'Année du Loup-Garou, Docteur Sleep et Grand Chauffeur. Alors, L'Autovirus Mécaponor, pour moi, ça va entre La Presseuse et La Dernière Affaire de Menet. La Dernière Affaire de Menet, donc du coup, qui est exactement dans la même... Alors, pas dans le même recueil de nouvelles, mais dans la même série télé.
Ouais.
Voilà. J'ai trouvé ça mieux maîtrisé, que ce soit au niveau des personnages... et de l'intrigue globale. Et en fait, je réfléchis et je me dis que même l'intrigue de la perceuse...
La presseuse.
Même l'intrigue de la presseuse m'attire plus et m'a plus passionné que celle de l'autovirus.
Ouais, pareil, l'ambiance est vraiment bien dans la presseuse. Hein.
Ouais, il y a ce petit côté enquête policière qui est vraiment sympa.
Ouais.
Par contre, j'aurais du mal à le mettre en dessous de Bon Ménage.
Non, Bon Ménage, moi, pour moi, c'est pas une nouvelle pour laquelle j'ai une grosse affection. Hein.
Parce que Bon Ménage, en fait, bon, le vrai problème de Bon Ménage, c'est que c'est trop long.
Ouais.
C'est, le pitch de base, il est vraiment excellent, mais c'est beaucoup trop long. En fait, Bon Ménage aurait duré une centaine de pages, je pense que ça aurait été vraiment bien maîtrisé. Là, le problème, c'est que ça en dure 150 de plus, je crois que ça fait 250 pages, Bon Ménage, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc du coup, c'est trop long. Pour ce que ça raconte. Donc pour moi, ouais, ça serait entre Bon Ménage et La Presseuse, et non pas La Perceuse.
Maintenant, j'ai bien envie de voir King écrire un truc sur une perceuse. Une perceuse bauche, évidemment.
Oh là là. Oui, qui se défoulerait dans un rassemblement d'écrivains qui s'appellerait Le Pen.
Du coup. Ouais, c'est ça, on peut garder cette idée-là aussi.
On est bon, là, on est bon.
Ouais, bah moi ça me va, juste en dessous de La Presseuse, pour moi c'est une bonne place.
Bah, c'est une position de classement moyen, quoi, en fait.
Oui, c'est ça, et là on est encore sur de la bonne nouvelle, hein. C'est...
Voilà, c'est
pas dénigrant envers elle.
C'est pas nul et c'est pas bon non plus, quoi. Oula.
Et donc, pour les films, nous avons à la première place Carrie au bal du diable de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières places, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr. Sleep de Mike Flanagan.
C'est toujours incroyable de dire qu'ils étaient deux pour faire Mangler Reborn, quand même.
Ouais, ouais, c'était deux de trop. Non, mais en plus, j'ai vraiment pas envie d'être méchant avec eux. C'est une histoire de budget pour... Bon, on va pas revenir là-dessus. C'était un triste moment. Et donc, où va-t-on classer quand l'autovirus met cap au nord ?
C'est toujours plus compliqué de classer un épisode de série quand tu l'as en comparo avec des films. Quoi.
Ouais.
Avec des séries plus longues.
C'est peut-être un peu sévère, mais j'ai envie de le mettre juste en dessous de Dreamcatcher.
Dreamcatcher qui est...
20e.
20e.
Ce Dreamcatcher est sauvé par son côté nanar, ouais. Par Morgan Freeman et ses sourcils de l'enfer.
Écoute, moi, ça me va. Je crois, oui, c'est vrai que je préférerais quand même revoir cet épisode-là que La Tour Sombre.
Ouais, La Tour Sombre, ça devient quand même dur. Hein. C'est dommage pour Idris Elba et... comment ? Et l'autre acteur dont j'ai oublié le nom.
Oui, oui.
Mais...
Pareil.
Ouais, non, pas en dessous de La Tour Sombre, c'est quand même... Il y a une ou deux scènes qui fonctionnent très bien dans La Tour Sombre, mais l'ensemble, c'est dur. Hein.
Mmh. Ouais, d'accord. Oui, alors que Dreamcatcher, bon... C'est rigolo.
Ouais, c'est ça, Dreamcatcher, il est sauvé par ça, en réalité. Hein.
Ah, il est sauvé par ça et par sa photographie.
Oui, et par sa musique aussi, voilà, qui est très bien. Mais...
La photo est vraiment pas dégueulasse.
Ouais.
Et par notre magnifique montage, la soupe au chou.
c'est mon chef-d'œuvre. Hein. Ça et Jet Li versus Louis de Funès, c'est les deux trucs dont je suis le plus fier dans ma carrière.
Voilà. Ah bah écoute, moi ça me va.
Donc ça te va, 21ème place ?
Ouais, ouais.
À la 21ème place, et donc bah du coup, la Tour Sombre continue sa chute.
Ouais, ouais, bah c'est, je pense que, qu'elle est destinée à tomber petit à petit, de plus en plus. La tour s'écroule. Ce qui est la problématique du cycle, d'ailleurs.
La tour est sombre.
Bon, bah nous avons terminé pour cet épisode, qui a été assez court, je suppose. Je verrai bien au montage. Oui. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler des Langoliers.
Langoliers.
Donc, qui est dans Minuit 2 et son adaptation par Tom Holland. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
@cinémaarchiviste pour toi. @augrédébulle pour moi.
Ouais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, ça on mettra le lien dans la description. Mmh. On doit toujours reprendre nos autres podcasts, c'est un peu compliqué.
C'est bon.
Ouais, surtout que notre camarade est maintenant qu'à contact, donc ça n'a pas aidé.
Effectivement.
J'espère pour lui que c'est rien, mais bon. Mais ce sont Casse sur table consacrés aux BD, comics, manga et La guerre des clapes consacrés au cinéma de manière générale. Mmh. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas
que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus.
Salut.